35 ans dans tes oreilles.
Sur 105.4 à Bruxelles.
www.radiopanique.com.
Salut les gars! On re-salue. Hein. C'est Gauthier pour l'émission On est des pigeons.
Ouais.
Et j'ai un invité surprise.
T'es un super
T'es
pigeon.
Le premier ministre, pardon.
T'es un super pigeon à l'antenne. Quoi.
Ah, franchement, non, il y a concurrence, Et à la technique, c'est
Bailo.
Merci à toi, dit. Voilà, et t'es là depuis quelle heure, en fait?
Officieusement,
tu sais même plus.
il a commencé à 5h et moi j'ai arrêté à 5h.
Non, j'étais là hier.
Officieusement, je suis arrivé à 21h.
Exactement.
Voilà. Ouais. Mais moi j'ai commencé à 22h et puis t'as commencé après.
Il a carburé aux chips toute la soirée. T'as carburé aux chips toute la soirée.
Non.
On a essayé de changer la déco pour quand vous arriviez le matin, quoi, avec le café.
C'est vrai qu'il y a du café, il y a du thé, il y a des pains au chocolat et croissant. Oh, le rêve.
Alors que tout le monde est dans les embouteillages, là.
Il y a pas trop d'embouteillages. Je sais pas ce qui se passe.
Non, ouais. Ah, mais c'est parce que c'est la nif de panique, hein, c'est pour ça.
Voilà.
Ils sont tous chez eux en train d'écouter, tranquille.
Ouais, ça
doit
être ça.
Ouais. Bon, ils n'ont pas envie d'aller bosser.
On va quand même parler du principal, c'est-à-dire moi.
Ah,
pour
merde.
L'émission On est des pigeons, qui a commencé en 2017 quand même.
Ouais.
Pas déconner. Le 16 janvier 2017, jour de l'anniversaire de mon père, c'est quand même beau ça. C'était surtout parce que j'ai pas eu le choix. On m'a dit c'est le troisième lundi du mois.
Je peux t'envoyer chez des gens si tu veux. Enfin,
ah, tu pourras. Donc 19 émissions. Le plus gros podcast, quand même 87 podcasts.
Ah, waouh!
C'était une émission. Ben, je sais pas, j'ai
pas fait
aucune
autant.
Idée.
Ouais, j'ai pas
c'était une émission
autant,
sur le recyclage, la gentrification. Ouais. C'est quand il avait été question peut-être de déplacer le recyclage à Molenbeek, rue de Manchester.
Ouais, c'est j'ai fait. Entendu parler de ça.
C'est fait finalement.
C'est fait. Moi, je suis sur la page du recyclage.
Ah,
ils ont un truc à Molenbeek maintenant. Ils vont ouvrir là-bas, quoi. Ouais. Okay.
Et
okay.
Alors, on a fait l'émission suivante. Donc ça, c'était le 19 mars 2018. Ouais. Et alors, le mois suivant, le 16 avril, on avait fait une émission avec le Baumeister, donc le maître architecte de Bruxelles. Mm-hmm. J'avais intitulé ça Bruxelles Canal Historique. Et là, on avait fait 54 podcasts. Je me suis dit que c'était pas mal quand même.
Ouais. C'est bien joué.
Ouais, pas mal. Alors, ce qui est amusant en économie, parce qu'on a parlé de, tu vois, l'émission qui a quand même fait le plus, c'est quand tu vas parler aux Bruxellois, aux Bruxello-Bruxellois.
Mais c'est quoi les Bruxello-Bruxellois?
C'est toi, c'est moi, c'est lui.
Je sais pas, moi c'est ma grand-mère qui est née, qui est flamande, qui est née à Berkem.
Alors
qui,
plutôt jeune et plutôt, tu vois, l'émission qui fait le plus, c'est celle sur le recyclage qui va changer de place.
Ah mais ça c'est pour les jeunes, ouais.
Ah, on est d'accord que là, ça touche en plein panique.
C'est parfois un peu la panique aussi à la fin de soirée là-bas.
Ouais. Et alors, ce qui est amusant, j'ai relevé, c'est que Keynes, qui est un des plus grands économistes, vous ne connaissez pas, mais était un grand collectionneur de livres.
Ouais.
Et il disait, en fait, et il était connu parce que c'est un économiste, mais en fait, il disait que l'économie, c'était secondaire. En fait, il faut que les gens aient de quoi vivre et après qu'ils s'intéressent aux choses essentielles, c'est-à-dire à l'art, quoi. Le gars avait une collection de bouquins et il faisait partie du Bloomsbury Group, avec notamment...
Ah non, General mais Group. Ça, je les aime pas, eux.
Ouais, je sais, mais oui, mais c'était l'époque.
Ce groupe-là.
J'ai pas dit que je les aimais, mais je dis que ce gars était connu.
Enfin voilà.
Était connu pour l'économie.
Des choses qui sont là maintenant.
Ah ouais, peut-être, mais tu vois, Keynes était connu pour l'économie et en fait, son principal souci, c'était tout ce qui était matière. Et c'est notamment grâce au.
Donc il était pour l'économie et pour l'argent et d'un autre côté.
Ah, c'est pas du tout ça. Donc pour la compréhension de l'économie, Keynes. Il voulait comprendre l'économie. Il n'était pas à dire il faut faire ci, il faut faire ça.
On va pas parler de ça en grand matin.
Non. Je vais parler de. Alors, j'ai essayé de voir ce qui s'est passé le 25 octobre 1983.
Ouais.
Bah, rien.
Ah, merde.
Ouais, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, si, il y a la naissance de Radio Panique.
Ouais, d'accord, évidemment. Bah,
attends,
mais ça, on le sait, ça
fait. Hyper important,
ouais. Voilà.
Moi, j'avais 3 ans et 11 jours.
Moi, j'avais un
tu
an.
Tu les fais pas.
Moi, je suis né en 82, j'avais pile un an, quoi.
Mais non, mais en 1983, qu'est-ce qu'il y a eu en France politiquement?
Je sais pas, moi.
Pas comment il s'appelle? Pas Chirac,
Mitterrand. Ouais, c'était
donc
Mitterrand,
c'était sous Mitterrand. Et en fait, il gagne en 81 et il se met en alliance avec les communistes.
C'est pas
fait
mal,
qu'à
ça.
Ce moment-là, il y en a qui ont dit ouais, ça y est, on va avoir les chars soviétiques à Paris, tout ça. On n'a rien eu des chars soviétiques.
Et tu sais que maintenant, ils ont peur de la même chose, hein. En
ah ouais,
Belgique.
Mais c'est toujours.
Non, mais en Belgique, ils ont peur de la même chose après les communales, ouais.
Ouais, c'est ça, les chars. Ah, ouais. Tu leur dis soviétique.
Mais
c'est les Russes. Ah oui, voilà. Mais c'est la même chose. Tu fais, non, les gars, vous avez pas compris. Mais en 1981, donc, Mitterrand est élu. Il fait une alliance avec le communiste. Et il faut une politique vraiment de nationalisation des entreprises, à gauche toutes, etc. Et en 83, la France se trouve en déficit, mais en fait, comme beaucoup de pays européens. Et donc, on se dit, ça marche pas comme politique. Donc, on va changer. Et là, il y a deux camps autour du Mitterrand qui vont se déchirer.
Mais il y a un truc en 83 que tu oublies.
Ouais, la naissance de Radio Panique, tu l'as déjà dit.
Non, la crise pétrolière, c'est le matin.
C'est en 73.
Ah, c'était avant.
Le premier choc pétrolier, c'est 73. Il y en a un deuxième en 78, si je ne m'abuse. Et alors, les politiques d'austérité arrivent dans les années fin 70, début 80.
Ça a commencé à cette époque-là. Les trucs qu'on a encore maintenant qui nous
disent... Justement, c'est ce dont je vais parler si t'as arrêté de m'interrompre.
Ouais, j'aime bien ça.
Ouais, j'ai remarqué, dit-il avec sa pomme fière de lui. Et donc, en mars 83, donc c'est même pas en octobre, c'est en mars. Bon, on va dire 183, on n'est pas à 35 ans, on n'est pas à 6 mois près, merde.
Oh, oui, non, c'est clair.
Et donc, la politique, les deux politiques en question, enfin en tout cas de changement, alors il y en a une qui dit qu'il faut aller plus en avant, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez, hein, ce qui peut marcher. Et c'est justement un patron qui est à l'avant de ça et qui dit, si la France suit donc les Jacques Delors, les Raymond Barre, les Jacques Attali, les Michel Rocard, etc., tous ces connards-là, il ne le dit pas comme ça, hein, et c'est un patron qui le dit, c'est quand même un patron qui le dit. Si on les suit, alors la France va perdre sa chance ultime de se moderniser et va disparaître de la scène des grands en se fondant dans un magma libéral européen. Il ne dit pas encore néolibéral à cette époque-là.
Mais
il le dit en 1983. Et donc, ceux-là préconisent, tous ceux qui sont autour de lui, dont Chevènement également, préconisent
Jean-Pierre,
la sortie...
Chevènement,
tout à fait, merci de préciser,
ouais,
Jean-Pierre. Ils préconisent la sortie du système monétaire européen, comme ça le franc peut être dévalué et apprécié exactement comme il le faut pour servir la politique. Ils préconisent de faire du protectionnisme et d'avoir une politique industrielle. Ils préconisent de hausser les salaires pour un patron quand même. Et de l'autre côté, on a les gens qui disent non, faut faire de la rigueur, on va baisser les dépenses, faut baisser les salaires, faut ouvrir l'économie française à l'économie mondiale, faut être dans le système monétaire européen, donc faut plus faire varier la monnaie, il faut s'arrimer aux marques allemandes. Et donc, il y a une dispute entre ces deux camps. Donc, le premier camp, c'est celui de Jean Riboud et de Chevènement. Et le deuxième, c'est celui de Delors, Barre, Attali, Rocard et des énarques. Et en fait, on pense que c'est directement ce camp-là qui a gagné. Mais il y a eu vraiment une discussion. Et Mitterrand a choisi vraiment en dernière minute, une nuit. Il a choisi, puis on va dire quasi le lendemain. Donc, on est le 14 mars 1983. Il le dit, il y a un discours politique où il dit il n'y a pas d'autre politique possible.
Attends,
c'est quoi l'émission qu'il y a eu hier soir?
Attends, je t'écoute, et après je réponds.
L'émission d'hier soir, c'était...
There is no alternative, parce qu'il y a une émission qui s'appelle Il faut tuer Tina.
Les bonnes nouvelles.
Oui, voilà. Exactement, et il dit il faut tuer Tina. Et en fait, le Tina vient de là, des années 80, il y a 35 ans.
Et c'est quoi le truc alors?
Et donc Mitterrand dit il n'y a pas d'autre politique possible que celle que... Oui, et alors il dit je crois que le monde moderne, le rétrécissement de la planète, la mondialisation en fait, mais ça n'existe pas encore comme terme, exige que la France joue le jeu. J'ai confiance à la production française et je suis contre le protectionnisme. Le chômage va faire un bond de 25% en un an. Et en 1985, Juppé, qui était de droite, dira « La gauche a fait le sale boulot qu'on n'a pas su faire ».
C'est pas là où on a perdu la confiance dans la gauche?
Oui, c'est le tournant de la rigueur.
Ils ont accepté la droite, c'est la gauche vire à droite. Voilà, c'est ça.
Et à ce moment-là, pour se différencier de la droite, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle pouvait plus se différencier sur l'économique, elle a dû commencer à se différencier sur d'autres choses.
Sur le social et tout, mais...
Sur le social, sur l'antiracisme, ce qui était le féminisme.
Oui, non, le féminisme, l'antiracisme et tout ça. Mais ce qui est pour les travailleurs, là, ils ont carrément pris...
Qu'alors, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement, parce que je vais parler de politique actuelle, parce que déjà j'aime bien ça et qu'il y a que ça que je sais bien faire. En fait, avec l'amour, ça quand même, faut pas déconner.
Et il y a eu un grand débat hier. Hein.
Sur l'amour ou le sexe?
Sur plein de choses.
Et qu'en 2018, il faut savoir que maintenant, un pays de l'Union Européenne, quand il établit son budget annuel, donc le budget de 2019, il doit le rendre, l'envoyer à la Commission Européenne qui va dire ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mm-hmm. Et pour la première fois depuis que ce système.
L'Italie, ça a été refusé.
Exactement, et c'est la première fois que ça arrive.
C'est pas mal, hein.
Et donc les Italiens arrivent avec un budget où hausse des salaires, hausse des dépenses publiques, investissement dans les entreprises pour avoir une production industrielle italienne. Et qu'est-ce que fait la Commission européenne? Elle dit non, on vous renvoie ça, vous nous refaites un budget. C'est la première fois.
Pourquoi ils ont refusé?
Mais parce que il faut respecter la rigueur budgétaire en vigueur depuis 1983.
Oui, mais pourquoi aussi autrement? C'est quand même, c'est quand même des partis populistes et d'extrême droite qui sont au pouvoir en Italie.
Ils s'en foutent, ça serait de gauche.
Mais est-ce que c'est pas que ça qu'ils ont bloqué ou
Non, ils en ont rien à foutre. Un parti fasciste.
Moi, je me suis posé la question.
Regarde en Autriche. En Autriche, l'Autriche rend son budget.
Oui, il y avait Heidegger.
L'Autriche
et
est considéré. Regarde actuellement. Le gars est considéré comme d'extrême droite, il fait partie du FPO. Considéré comme d'extrême droite.
Du parti de droite.
Il rend son budget, il n'y a pas eu de problème, c'est bon, t'es un brave petit élève. Ils s'en foutent qu'il soit fasciste. Ils veulent juste pas qu'il sorte des clous budgétaires. Que ce soit des partis de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, catholique, protestant, tout ce que tu veux, nationaliste, pas nationaliste, tu respectes les critères ou t'es mauvais. Et ce qui est amusant, si je puis dire, donc c'est l'Italie se fait retoquer son budget, ils doivent en représenter un dans 3 semaines, ils ont déjà dit on va représenter le même, on en a rien à foutre.
Ils ont
qui refuse, qui est commissaire européen en charge de cette matière-là? et qui a refusé. C'est Moscovici, et Moscovici est de quelle nationalité ?
Italien.
Non, français.
Français ?
C'est un français.
Ah, tu vois,
35 ans plus tard, en fait,
il faut savoir... La France reprend le pouvoir.
Mais en fait, les Français... Arrête tes conneries. Mais il faut savoir qu'il y a 35 ans...
On avait coupé la tête à Louis XVI, ça n'a pas marché ?
Ça a marché pour l'époque, puisqu'ils ont établi un autre régime. Voilà.
Oui, oui.
Attends, parce que j'ai un problème.
Ouais, moi aussi.
Problème avec le casque, tu nous entends
toujours ? On s'entend à moitié.
Ah, il y a un coup de téléphone.
Ah, il y a quelqu'un qui nous appelle.
Il y a un coup de téléphone.
C'est le CR, ça, c'est qu'on dit des bêtises.
Tu vois, oui. C'est la Commission européenne qui nous appelle pour retoquer mon émission.
Ah. Vas-y,
ils sonneront, ils sont en train d'écouter. Alors, qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui, qu'en 2018, donc, le commissaire européen qui retoque ça, c'est Moscovici.
Ouais.
Donc l'Italie a 3 semaines pour présenter un nouveau budget, mais ils ont dit on s'en fout, on va représenter le même, en sachant que si tu représentes le budget, en fait la commission au bout d'un moment peut te fixer une amende, sauf que qui va te faire payer l'amende ? Qui va te faire payer l'amende ?
Bah, la commission.
Oui, mais elle a pas de police, elle a pas de justice.
Bah si, quand
elle a
même,
pas aucun appareil administratif pour t'obliger à payer.
Bah si, ils ont quand même. Hein.
Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, ce qu'ils pourraient faire, c'est suspendre toutes les subventions européennes.
Je sais
à
pas,
l'Italie.
Même ne fût-ce que la Belgique, toutes les lois qu'ils doivent faire par rapport à la Commission européenne, s'ils le font pas, c'est qu'il y a un truc.
Oui, mais ils font pas les lois. Ils vont pas faire les lois.
Ou qu'ils reçoivent pas des subsides, peut-être.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on
c'est
coupe
peut-être
tout...
bêtement ça.
Alors,
c'est
si tu
ça.
Coupes les subsides à l'Italie. Tu vois, si l'Union européenne coupe les subsides, les Italiens s'en foutent parce qu'ils sont contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils donnent plus à l'Union européenne qu'ils ne reçoivent.
Il y a quelqu'un en ligne qui voudrait en parler.
Allez,
bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour,
qui êtes-vous ? Dites-moi. Oula, on vous entend mal.
Ouais, on a. Mais ça va.
Dites-nous, monsieur.
Bonjour, les pigeons.
Bonjour, monsieur.
Oui, je me demandais si vous ne disiez pas vraiment des conneries en disant que depuis 83, on ne peut pas faire de déficit budgétaire dans les pays membres de l'Europe.
Ah, j'ai caricaturé en disant que c'était la rigueur budgétaire. Alors on demande aux pays de ne pas faire des déficits, il y a les fameux 3% de Maastricht.
Ouais, mais ça c'est est-ce que c'est pas plutôt lié à la création de l'euro ?
Ah, mais ça fait partie du processus.
1983, quoi.
Oui, c'est une manière de voir les choses, mais je vois la création de l'euro comme et le respect des traités de Maastricht et des 3% de déficit budgétaire. C'était les conditions pour entrer dans l'euro. Donc, pour moi, on peut pas séparer cette rigueur budgétaire qui est demandée à tous les États de l'Union européenne et la création de l'euro. Les deux sont liés et c'est un mécanisme qui part de, notamment, 83. Mais je pense que l'idée de l'euro est dans les tubes depuis beaucoup plus longtemps.
Il y avait l'écu, il y avait tout ça.
Il y avait l'écu, mais c'est ça,
dans
ces eaux-là.
Qui a été créée.
Sinon, oui, il nous arrive de dire plein de conneries, hein. Mais s'il y a pas de problème, et dès le matin.
Non, mais je veux dire, avant d'être vraiment lié par une monnaie commune.
Ah, une monnaie unique. Nous sommes dans une monnaie unique et pas une monnaie commune.
Il y avait plus de marge de manœuvre parce que tu pouvais faire de la création monétaire.
Ah, à l'époque, on pouvait.
Ah oui, chaque pays
mais on leur demandait déjà de ne... Il y avait... Le système monétaire européen arrive dans les années fin septembre, début 80. Non, fin septembre, début 80, puisque Mitterrand en parle et on est en 83. Et effectivement, on peut faire du déficit, mais on demande au pays de plus en faire. Parce que justement, comme on ne peut plus trop faire varier sa monnaie, on ne peut plus compenser les déficits budgétaires, on ne peut plus, on va dire, aller redonner de la vigueur au compte public en faisant de la dévaluation, ce que les pays faisaient avant. Et on le voit ici avec la monnaie unique et non pas la monnaie commune, là je me permets de vous corriger. Avec la monnaie unique, il se fait que les pays... comme la Grèce, on l'a vu, ne peuvent plus dévaluer leur monnaie pour remettre leur compte à flot. Ils sont obligés de faire ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est-à-dire une baisse des salaires. On l'a vu en Grèce, on le voit en Italie, on l'a vu en Espagne, on le voit au Portugal, on le voit un peu en Belgique, on le voit un peu en France. D'où les votes pour les partis dits populistes. Voilà, je peux tout à fait dire des conneries, me tromper. C'est ma vision des choses, elle est la vision d'autres personnes et de bouquins que j'ai lus. Et, excusez-moi, vous
parfait,
appelez comment, monsieur ?
Bon, moi, je m'appelle Didier.
Ah, bonjour Didier. Français ?
Non, je suis allemand.
C'est parce que l'accent.
Ah, mais ouais. Oui, non, mais bon.
Je me doute.
Vous voyez, aujourd'hui, l'Europe.
L'Europe ou l'Union européenne, ce serait peut-être le débat à avoir. En tout cas,
justement, sur ce qu'on disait, quel est votre avis à vous ?
Ah oui, votre avis. Donc, il nous reste 4 minutes. Si vous avez envie de parler, bon, on vous écoute. Voilà. Pour l'émission, on est des pigeons. Voilà, on vous écoute.
Non, mais le cas italien, c'est un peu spécifique. Je pense que je vois ce que vous dites. Ah oui, c'est pas bien. L'Europe tape sur les doigts. D'un gouvernement qui veut relancer la croissance ou je sais pas quoi avec du déficit budgétaire. Le fait est que s'ils continuent de faire n'importe quoi, ils vont avoir beaucoup plus de mal à rembourser leurs dettes, en fait.
Alors, vous avez tout à fait raison, mais moi j'ai une objection
c'est pas
là-dessus.
Plus mal, ça
c'est, je dirais que comme on a une monnaie unique, Le fait que les Italiens fassent ça fout tout le monde dans la merde. Si l'Italie avait gardé sa lire et sa capacité à faire varier sa monnaie, il n'y aurait pas ce problème. La Grèce le faisait avant, l'Italie le faisait avant. Quand il y a des difficultés budgétaires, il y avait des difficultés budgétaires. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils dévaluaient. Et c'était leur problème. Maintenant, un pays veut faire quelque chose, ça devient le problème de tout le monde. Ah ouais. Que les Italiens reviennent à la lire. Attends.
Ça devient le problème de l'Europe.
Ça devient le problème de l'Union européenne, pas de l'Europe.
Et la Banque européenne.
Tu vois, donc voilà, Didier, mon avis, c'est qu'effectivement, les Italiens peuvent faire n'importe quoi et peuvent foutre le système bancaire européen à mal. C'est évident, mais parce qu'on a tout connecté, et est-ce qu'il fallait tout connecter ? Ça, c'est pour moi la question. Une des questions, il y en a de nombreuses autres.
Mais ce qui est étonnant avec l'Italie, c'est qu'on en parle comme si c'était la Grèce, alors que c'est quand même la troisième économie en Europe, quoi.
Oui, mais c'est pas la Grèce, effectivement.
C'est pas la Grèce au niveau politique, et alors, c'est pas faut du tout la Grèce, c'est l'extrême autre.
Alors, je peux parler un tout petit peu de technique, de toute façon, c'est mon émission, donc je vais un petit peu parler. Non, mais tu peux parler, Yannick. Et donc, il se fait qu'il faut savoir que la Grèce ne pouvait pas sortir de l'euro, tout simplement, parce qu'elle n'en avait pas les moyens, elle n'avait pas les reins assez solides. Il y a plus d'argent qui ne sort de Grèce qu'il n'en rentre au niveau finance. Mmh. Or, l'Italie, grosso modo, dans les banques situées en Italie, j'ai pas dit les banques italiennes, j'ai dit les banques situées en Italie, il y a quasi autant de pognon qui sort qu'il ne rentre. Donc si jamais, comme on l'a fait avec la Grèce quand elle a fait son référendum, on a fermé les frontières financières de la Grèce, si on fait la même chose avec l'Italie, pendant tout un temps, elle peut vivre sur elle-même. Donc elle a une autonomie qui lui permettra peut-être, si elle le décide, de sortir de l'euro. Mais là, c'est une autre histoire et ce sera une aventure. Je ne pense pas qu'ils le feront, mais c'est toujours possible.
C'est aussi un peu une question de... Évidemment, le nord en Italie est plus riche que le sud aussi.
Oui, mais ça, c'est une question italienne. Ça, c'est eux qui font des transferts. Ça, c'est leur problème.
Et la sortie, ce serait comme les Anglais qui sont sortis et maintenant, ils s'en mordent les doigts, quoi.
Ah oui, non. Ça, c'est ce que nos médias relaient. Il y a des Anglais qui disent que c'est une bonne...
J'ai mon frère qui a été vivre en Angleterre.
Ça, en ville, à Londres. Oui, mais le londonien... Enfin,
dans le sud, mais...
Faut voir, hein.
Mais ils sont pas tellement d'accord, quoi.
Ah oui, mais il y a toujours un débat et les Anglais sont. Didier, en tout cas, merci.
On a parlé des Anglais, merci, ça va.
Donc il était vraiment français. Didier, en tout cas, merci à vous pour l'appel. C'est très rare d'avoir des appels et peut-être que j'ai dit des conneries. Alors il y a beaucoup de gens qui disent des conneries parce que je me base sur beaucoup de bouquins que j'ai lus. Mais voilà, c'est en tout cas ce qui arrive actuellement. L'Italie s'est fait retoquer son budget. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est encore des remous sur l'Union européenne. On est des pigeons. Le troisième lundi du mois.
Ouais. Bon, ouais. Le reste ou pas ?
Franchement, si t'écoutes l'émission, tu le seras un peu moins.
On essaiera.
Ouais, merci à toi.
Merci à vous les gars. Hein.